Bonjour Jean-Michel Jacques.
Bonjour.
Et je précise que vous avez passé une vingtaine d'années dans les commandos marines, si bien que vous avez une certaine expérience des tensions militaires et des questions et du droit maritime également. Alors les tensions justement depuis plusieurs semaines entre la Turquie et la Grèce devaient être au menu d'un sommet européen qui devait avoir lieu aujourd'hui et demain. Il aura finalement lieu la semaine prochaine pour cause de Covid. Rappelons que la Turquie revendique le droit d'exploiter des gisements d'hydrocarbures dans une zone maritime qu'Athènes estime relever de sa souveraineté. Des discussions entre la Turquie et la Grèce devraient commencer dans quelques jours. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aujourd'hui une volonté d'éviter l'escalade des deux côtés?
Oui, c'est ce qu'on peut ressentir. Il y a eu une certaine montée en tension, plus ou moins théâtralisée parfois. Là, on sent tout de même que une porte de sortie est recherchée. En tout cas, c'est la posture de la France et la posture européenne qui souhaite finalement mettre en avant le droit international et puis trouver une porte de sortie par la discussion.
Alors, on va évoquer dans un instant le rôle de la France dans cette affaire, mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même un problème avec le droit maritime international qui, en l'état, si on regarde les cartes, prive quasiment la Turquie de toute forme de souveraineté maritime, tandis que la Grèce a une zone absolument considérable?
Alors, c'est vrai que le droit international, qui est essentiellement bâti sur la convention de Montego Bay, oui, et qui finalement définit des zones économiques exclusives pour tous les pays qui l'ont signé, c'est-à-dire que chaque pays qui a signé cette convention part du principe
que la Turquie n'a pas signé. Hein.
Et la Turquie ne l'avait pas signé parce que à cette époque, elle avait certainement déjà bien compris qu'il pouvait y avoir pour elle des enjeux de zones d'influence et de zones sur son plateau, entre autres continentales, hein, qui déborde sur une bonne partie de la Méditerranée et qui est une source de revenus et potentiel de revenus pour la Turquie. Ce qui d'ailleurs alimente cette théorie de la patrie bleue qui a été portée par certains, hein, qui imagine cette Turquie puissante, ouverte sur la mer et qui nourrit un peu le nationalisme turc aussi.
Cette règle internationale, c'est celle qu'on appelle la règle des 200 000 marines autour d'un point terrestre.
C'est ça, de
mais
la
alors,
côte, mais du
si
Nil
on prend
aussi.
Le cas de la Grèce, donc qui a littéralement des confettis dans toute la mer Égée. Elle a, selon cette règle, 200 000 marines autour de chacun de ses confettis.
C'est ça. Et ce qui peut aussi être problématique pour les Turcs, dans le sens où il suffit qu'une île soit à proximité, et c'est le cas d'ailleurs de la Turquie.
Oui, pour que la Turquie ne puisse prétendre finalement aujourd'hui à quasiment rien en zone marine souveraine.
Alors, rien, ce n'est quand même pas le cas, mais d'une partie réduite, mais ce qui est vraiment à remettre en question dans la posture turque, c'est sa façon de faire. Qu'elle souhaite discuter de tout ça et remettre en cause le droit international, même si elle ne l'a pas signé, mais en tel qu'il est défini, que ça se fasse de façon différente que par en montrant finalement les gros bras.
C'est une forme d'intimidation.
C'est une forme d'intimidation. On le voit bien, la Turquie joue un double jeu. Elle fait du chantage finalement avec les flux migratoires qu'elle pourrait laisser passer qui viendraient de Libye, hein, suite à tous les événements libyens. Donc c'est une façon de montrer un petit peu sa capacité de nuisance, mais c'est pas acceptable pour l'Europe.
Dans ce type de situation, parce que là il y en a eu, les manœuvres militaires, à quoi servent-elles? Est-ce qu'elles ont vraiment un effet en quelque sorte diplomatique, ou est-ce qu'elles relèvent d'une forme de théâtre?
Les deux, mon colonel. En fait, vous savez bien que les armées ne sont qu'un outil du politique, finalement. Et là, bien entendu, on sent que la Turquie provoque un petit peu aussi, de façon à montrer qu'elle est en capacité de pouvoir jouer de ce jeu militaire aussi, et ce jeu pour impressionner les différents partis sur entre autres les Grecs, qui revendiquent aussi leurs droits.
Et les insultes utilisées par exemple là par le président turc à l'encontre d'Emmanuel Macron, je rappelle, hein, ambitieux, incapable, cupide et incompétent, tenant de l'ordre colonial, est-ce que là elles ont une véritable fonction, ou est-ce qu'on est aussi finalement dans une forme de jeu?
Oui, là, effectivement, là, on est plus dans la partie théâtrale, mais je pense que Erdogan, quand il a ses propos, il s'adresse aussi à sa population, c'est-à-dire qu'il veut asseoir sa capacité, sa puissance, ouais. Montrer que c'est un homme d'État et qui se permet finalement de parler de telle façon du président français. Donc, je pense que pour les initiés, les gens qui sont dans le monde de la diplomatie, ouais. On sait bien que ce n'est pas quelque chose vraiment de significatif, mais ça s'adresse plus à la population turque pour asseoir cette idée de président fort.
C'est un usage de communication interne, en fait.
C'est ça. Et ça rejoint cet axe nationaliste, parce que c'est son électorat aussi qu'il a besoin de maintenir, proche de différentes échéances pour lui.
Ouais. Pourquoi donc, pour en revenir au début de notre entretien, pourquoi les tensions ont été particulièrement fortes entre la France et la Turquie? Parce que ça, on aurait pu imaginer que ce soit avec l'Union européenne, mais c'est largement avec la France que ça s'est cristallisé.
Oui, parce que déjà la France a été agressée par un navire turc.
Alors ça, c'est une histoire un peu plus ancienne, qui remonte à plusieurs semaines maintenant.
C'est ça. Hein. Vous savez, il y avait une frégate française qui surveillait l'embargo pour la Libye, où on ne peut plus délivrer d'armes pour faire baisser les tensions. Et finalement, la Turquie était dans une posture qui permettait de laisser passer un certain nombre de bateaux pour livrer des armes. Et un navire français en proximité, il s'est fait finalement illuminer, alors c'est un terme un petit peu technique, mais repéré par des radars qui peuvent lancer des missiles.
C'est-à-dire que le bâtiment turc a fait comprendre au bâtiment français qu'il, en quelque sorte, il l'avait dans son viseur.
C'est ça.
C'est ça que ça veut
dire.
C'est
ça. Ouais. Et donc c'est un acte quand même très significatif. Hein. C'est comme si une personne dit « Attention, je peux te taper dessus si je veux. »
Si l'envie m'en prend.
Donc c'est quand même agressif.
Quelle est la puissance de l'armée turque? Parce que depuis des années, dès qu'un pays fait parler de lui, on dit c'est la troisième, c'est la quatrième, c'est la cinquième armée du monde. On se souvient avec l'Irak, par exemple. La vérité aujourd'hui sur la puissance de l'armée turque, quelle est-elle?
Elle est tout de même significative. L'armée turque est une armée d'effectifs. C'est une armée importante en effectifs. En termes d'effectifs, c'est la deuxième de l'OTAN. On n'y pense pas forcément. Et c'est la huitième au niveau mondial. Donc, elle a pu être un petit peu déstabilisée il y a quelques années, il y a près de 3 ans maintenant, lorsqu'il y a eu une tentative de coup d'État par l'armée, qui a été un petit peu purgée de quelques généraux, on va dire.
Significativement même, oui.
Voilà. Mais elle est tout le temps présente et avec des effectifs forts et des moyens techniques tout de même significatifs.
Merci Jean-Michel Jacques. Bonne journée.
Bonne journée à vous.